Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1982, à la mort d'Aragon, sobrement, l'Humanité titrait à sa une. Aragon est mort, adieu au grand poète français, notre camarade. Et dans le Figaro, lucide, mais néanmoins admiratif, Jean d'Ormesson écrivait. Il y a des poètes qu'on aime, des romanciers qu'on chérit contre vents et marées, en dépit de tout et de soi. Aragon, vivant ou mort, est un écrivain qu'on admire. Je l'admire plus que personne. Il y a des aspects de sa vie et de sa personnalité que, par respect pour lui, beaucoup préféreront oublier. Peut-être entrons-nous dans un âge où il sera de plus en plus difficile de vénérer en bloc les grands hommes de notre histoire. En 1997, pour ne rien oublier d'Aragon, 100 ans après sa naissance, Christine Goémé proposait en deux temps une plongée de 6 heures dans l'œuvre et l'existence du grand écrivain. Une voix sans mesure, Aragon, 1897-1982, deuxième partie, je n'ai pas d'autre azur que ma fidélité. Avec la voix d'Aragon et Olivier Barbaran, Daniel Bougnou, Marc Dachy, Dominique De Santi, Charles Dobzinski, Lionel Follet, Yannick Enel, Christian Jambé, Pierre Lartigue, Jean Rista, Guy Scarpetta, Georges Sebag, Philippe Solers, André Thirion et, comme il se doit, le très admiratif Jean d'Ormesson.
Une voix sans mesure. 1897-1982. Louis Aragon.
Moi, je suis. Je ne désapprouve rien de ce que j'ai écrit, même ce contre quoi je suis, car il y a des choses que j'ai écrites contre lesquelles je suis. Parce que j'ai changé. C'est pas. On me reproche beaucoup que j'ai changé, mais on n'a pas remarqué que j'ai changé toujours dans le même sens. Ce qui est une chose différente. Bon, j'ai écrit politiquement des choses que je regarde aujourd'hui avec un certain étonnement, comme si elles n'étaient pas sorties de moi. Mais je sais aussi que ça a été le chemin pour arriver à autre chose. Maintenant, bon, je suis l'auteur de La Rose et le Réséda. Moi, je veux bien, d'ailleurs, hein. Mais je ne suis pas que ça, tout de même. J'ai écrit beaucoup dans ma vie. Et je comprends très bien l'agacement des collégiens. Avoir à commenter des choses, d'ailleurs, qu'ils comprennent plus ou moins bien. Et puis, enfin, en fait, on veut faire de moi un personnage que je ne suis pas. Je suis pris entre des gens qui me considèrent comme un monstre et ceux qui veulent faire de moi un personnage idéal.
Deuxième partie, je n'ai pas d'autre azur que ma fidélité. Une émission de Christine Goémé, mise en onde, Evelyne Frémy, Marie-Rose Derouet.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce.
Qui n'a jamais entendu « Il n'y a pas d'amour heureux, nous dormirons ensemble, que serais-je sans toi ?» Tous ces poèmes de Louis Aragon chantés par Léo Ferré, Georges Brassens, Alain Souchon, Yves Montand, Jean Ferrat, Régine Crespin, Monique Morelli, Juliette Gréco, Catherine Sauvage, Marc Augeret et tant d'autres. L'histoire de la chanson française du XXe siècle, celle du peuple français, celle qu'écoute et écoutait aussi bien les intellectuels que les ouvriers, passe par Louis Aragon et ses interprètes. Aragon a écrit pour tout le monde. Il a su nouer là culture savante et culture populaire et être le passage de l'une à l'autre. Alors pourquoi ? Parce qu'il a su absorber et transmettre l'histoire de la langue française, celle par exemple de François Villon ou des troubadours, et la faire vivre dans la modernité. Mais aussi parce que Aragon a toujours été le contemporain de son époque, à l'écoute de l'instant du temps. Rien de ce qui fait le XXe siècle ne lui est étranger. Aujourd'hui, les sentiments violents d'amour ou de haine que suscite son nom 15 ans après sa mort ne sont que la trace, le pâle reflet des violentes polémiques, des combats et des débats qu'il suscita pendant toute sa vie. Qui réglera ces contentieux? Surtout pas nous. Les paradoxes Aragon restent ici intacts. Mais peut-être serait-il temps, quels que soient nos partis pris, de le lire vraiment. Notre question dans cette émission serait celle-ci. Et si Aragon, par ses contradictions mêmes, mettait en analyse nos manières de juger?
Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie, il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux.
Vous parlez beaucoup d'Aragon dans vos mémoires, cher Dominique de Santy.
Oui,
comment est-ce que
oui,
vous avez rencontré Aragon?
Oh ben ça c'était vraiment très curieux parce que c'était tout à fait à la Libération et les journaux sortis de la Résistance se réunissaient pour constituer ce qui sera la Fédération de la Presse, etc., qui est défunt depuis longtemps. Et je n'étais pas encore officiellement un journaliste communiste. J'étais devenu communiste en 43, mais je travaillais dans la presse dite bourgeoise et je représentais des petits journaux que nous avions créés à Clermont-Ferrand, Le Patriote bien entendu, puis La Nation. Et l'administrateur de l'Humanité, dont je fais la connaissance à cette occasion, me dit « Ah, bah, puisque tu as une telle admiration pour Aragon, écoute, demain je déjeune avec lui à la cantine de l'Humain, veux-tu que je t'emmène ?» Moi, alors, si je voulais, je lui ai même pas dit que je voulais, alors, me suis acheté des bas au marché noir, j'ai été chez le coiffeur avec l'argent que j'avais pas, peu importe, enfin, rencontrer le poète qu'on récitait tous à toutes les réunions, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, s'il était à refaire, je referais ce chemin. Et puis, moi, à 15 ans, j'avais été complètement amoureuse des surréalistes, sans me rendre compte que c'était déjà un mouvement passé, qu'Aragon était parti depuis longtemps, que Éluard et Breton étaient brouillés, enfin, je ne savais rien de tout ça. Mais
Il avait quand même une réputation extraordinaire, un peu sulfureuse d'ailleurs.
C'était extraordinaire. Alors donc, tout ça faisait que j'étais dans un état d'émotion et d'attente. Et je vois arriver effectivement un homme très beau, sourire de glacier, œil de métal, chevelure très brune, extrêmement élégant d'allure, et qui s'adresse immédiatement à l'administrateur de l'Humanité pour des histoires de papier, pour ce soir, pour les lettres françaises, etc. Et puis il se tourne vers moi et il dit « Ah, eh ben, dites-moi, ça a changé depuis moi, les jeunes journalistes, parce que nous on griffonnait sur des enveloppes et vous, vous avez un bloc, ça c'est ordonné. » Et alors moi qui avais tellement de questions à lui poser, j'ai plus rien osé dire, j'ai attendu la rencontre suivante.
Est-ce que vous avez des témoignages directs, puisque vous aviez des amis qui avaient fait la résistance avec Aragon, est-ce que vous aviez des témoignages directs de la manière dont Aragon s'est comporté pendant la résistance?
Oui, eh bien, j'ai connu bien René Tavernier, qui avait à Lyon la revue
Confluence.
La revue Confluence, c'est ça où
c'est le père de Bertrand Tavernier.
Oui, absolument. Et René, qui était alors jeune et mince, très mince, nous racontait comment, jeune poète, éperdu d'admiration, il a connu le couple Aragon-Triolet. Il les a reçus chez lui à Lyon dans un petit appartement secret où ils ont pu, comme ils n'avaient pas de papier en règle, où ils ont pu séjourner. Et ils ont justement créé un réseau ensemble, c'était avant même la création des lettres françaises, ça devait donc être dans la seconde partie de l'année 41, puisque les communistes sont entrés en résistance après l'invasion de l'URSS, c'est-à-dire après juin 41.
Oui.
Il a admiré son parfait courage, ainsi que celui d'Elsa, d'ailleurs.
Il était très réputé pour son courage physique.
Ah, mais énorme. Déjà, jeune homme, à 18 ans, médecin auxiliaire, mobilisé 20
ans. Il avait sauvé des gens, oui.
Ah oui, il avait une très belle conduite et une croix de guerre qu'il cachait soigneusement parce que, dans les milieux surréalistes, c'était pas valorisant, au contraire. Et il a eu une deuxième croix de guerre, d'ailleurs, à cette guerre-ci, où il aurait très bien pu éviter d'être mobilisé vu son âge,
oui.
Et ou au contraire, il a eu une citation très élogieuse pour le souci qu'il a montré envers ses hommes. Et effectivement, lors de la débandade de l'armée et de la retraite, rares ont été les officiers qui se soient d'abord occupés de leurs hommes. Il en fut. Il a vraiment montré du courage, beaucoup, et dans la résistance également, et je dois dire Elsa aussi.
Alors, je crois qu'il y a aussi des témoignages du poète Segers.
Ah oui, mais Segers a joué un grand rôle, parce qu'il avait la revue Poésie. Alors, successivement, 40, 41, 42,
voilà,
43.
Qui existe voilà. Encore, d'ailleurs.
Mais qui existe encore, et dont sa femme s'occupe,
oui,
Colette.
Oui, bien sûr.
Et alors, Segers, qui était alors un jeune homme, très ardent et éperdu d'admiration devant Aragon et Luard, alors vraiment éperdu, est devenu un grand ami du couple et un grand ami d'Elsa, un très grand ami d'Elsa. Et il l'a, je crois, beaucoup aidé. Et il a été le pont presque involontaire entre Aragon et Matisse, c'est-à-dire qu'Aragon a publié dans Poésie, je ne me rappelle plus si c'est 41 ou 42, une étude sur Matisse sous un pseudonyme, et il a écrit à Matisse. Matisse, qui était à Nice et qui ne bougeait pas de son lit, lui a dit de venir le voir, ils y sont allés tous les deux, et Matisse a fait des dizaines de dessins et d'Aragon et d'Elsa. Et ils se sont vus pratiquement deux fois par semaine.
J'ai rencontré Henri Matisse à Nice en 1941. Nous habitions, Elsa Triolet et moi, une petite chambre sur la mer, aux Ponchettes. Et Matisse m'a su que nous étions là et m'a invité chez lui. J'ai été une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, dans cette grande période qui était pour nous une période de solitude et de tristesse, je suis devenu un familier de Matisse. J'ai été tous les jours chez lui, passé avec lui des heures, d'abord pour la conversation, et puis tout naturellement, il m'a demandé d'écrire un texte pour lui, pour les dessins qu'il était en train de faire. C'est qu'à cette époque, Matisse se trouvait juste après cette opération grave qui avait failli lui coûter la vie, et il avait commencé au lit tout d'abord, avant de repeindre, par se remettre au dessin. Non pas qu'il ait vraiment jamais abandonné complètement la peinture, mais enfin, il ne faisait que de petites peintures à cette époque, et pour lui, l'essentiel était sur des motifs choisis, une femme assise, des coquillages, un fauteuil, une nature morte avec des coloquintes, des séries de dessins où, partant de la nature dont il disait qu'elle était essentielle pour faire quoi que ce soit, mais qu'il en partait pour aller ailleurs, qu'il se servait de la nature comme d'un tremplin. Et d'ailleurs, il comparait en général son dessin aux jeux athlétiques et aux jeux du cirque, n'est-ce pas? Et il s'agissait pour lui, de même que l'acrobate fait un geste parfait et pour cela le répète sans fin jusqu'à ce qu'il soit parfait, il refaisait son dessin jusqu'à ce qu'il le connaisse assez pour que le dessin devienne comme l'expression d'écriture parfaite de la réalité. Et les choses étaient pour alors, pour lui, à ce moment-là, présentées comme des signes, comme sont les lettres d'un alphabet nouveau. Tout cela était destiné à un livre qui apparut, d'ailleurs, un peu plus de 2 ans plus tard, et qui portait en tête un titre général, mais dont la partie écrite par moi s'appelait « Matisse en France » avec des traits d'union, comme si Matisse avait été un village.
Daniel Bougnou, vous dirigez pour la Pléiade l'édition des romans de Louis Aragon. Alors, comment l'œuvre d'Aragon se distribue-t-elle? Est-ce qu'elle a une unité?
C'est vrai qu'au premier regard, et on pourrait dire il y a 3 grandes périodes, et tout le monde a remarqué que le dadaïsme surréaliste, ça fait un bloc qui s'arrête en gros en 32. Voilà. Il y a une date franche de coupure, c'est quand Aragon se désolidarise publiquement d'André Breton, autour de l'affaire Front Rouge, misère de la poésie. Puis s'ouvre le cycle du monde réel, du réalisme, bien repérable avec ses grands massifs romanesques, les cloches de Bâle, les beaux quartiers, les voyageurs, Aurélien, les communistes, puis la Semaine Sainte. Tout cela fait un grand cycle réaliste, disons, entre guillemets. Et c'est vrai que s'ouvre une 3e période, alors moins facile à dater que la précédente fracture, et qu'on pourrait dire au tournant de... après la Semaine Sainte, en gros, après la Semaine Sainte, au tournant du Fou d'Elsa.
Donc c'est quelle année, ça, à peu près?
Alors le Fou d'Elsa apparaît en 63, disons début années 60.
Dans les années 60.
Début années 60, oui. On pourrait dire que... Alors, il y a eu 56. 56, c'est l'année terrible, n'est-ce pas? Évidemment, c'est le rapport Khrouchtchev, donc le début de la déstalinisation. Puis c'est Budapest en novembre. Et donc, c'est la publication aussi du roman inachevé, qui est un des plus beaux chants d'Aragon. Une récapitulation à la fois très émouvante, très, très, très riche, enfin, sur son autobiographie, sur son parcours intellectuel. Et dans lequel lui-même insiste en effet sur la division entre le surréalisme puis le réalisme. Mais significativement, le surréalisme occupe beaucoup de place dans le roman inachevé. Donc Aragon n'a pas entièrement rayé sa parole précédente, comme il a dit de Maldoror.
Non, c'est plutôt quelqu'un qui agit par intégration successive.
Alors voilà, je crois qu'effectivement, plus on les lit au fond ces textes, plus on est frappé par la continuité profonde. C'est vrai qu'il y a une 3e période qui s'ouvre en 60 environ, mais c'est quoi cette 3e période? Peut-être c'est le moment où l'histoire se défait. Où l'histoire devient moins claire, peut-être pas illisible, mais en tout cas moins claire, et où la question comment raconter l'histoire et aussi comment se raconter des histoires peut-être monte en première ligne. Cette question qui est au fond une question de, qu'on dirait métalinguistique à l'université, c'est-à-dire une question sur la possibilité même du récit ou de l'écriture ou de la représentation. Alors là, Aragon devient beaucoup plus centrifuge, beaucoup plus carnavalesque et bariolé que dans les romans du monde réel. Et au fond, par un tour supérieur de spirale, on retrouve la défense de l'infini. D'une certaine manière, on pourrait dire que La mise à mort et Blanche ou l'oubli, ces grands romans des années 60, c'est un retour, entre guillemets, à une cacophonie, une dispersion, un désespoir aussi, et une liberté, mais un désespoir qui frappe à la lecture de La défense de l'infini, en 26-28 donc. Et donc il y a peut-être une boucle qui revient sur elle-même. Mais bon, moi ce qui me frappe au fond, plus je lis Aragon, c'est un approfondissement constant et un enrichissement de l'écriture. Les coupures ne sont pas aussi fortes qu'on le prétend. Au fond, l'idée de coupure est une idée scolaire. C'est pour ranger, oui. C'est pour classer. C'est nécessaire, bien sûr, c'est utile. Bon, ça ne doit pas nous occuper trop longtemps, cette question des périodes ou des âges d'Aragon. Non, il faut le prendre en bloc et il faut tout lire. Parce que Aragon n'est passionnant, n'est vraiment passionnant que si on le prend entier. Parce que ça pose la question de l'identité. Comment le même homme a-t-il pu écrire des choses aussi différentes? Et pourtant, c'est bien le même homme par derrière qui écrit tout cela, ou qui rêve tout cela, qui veut tout cela. Et donc, quand on lit tout, à vrai dire, on ne peut pas tout lire.
Impossible.
Mais, enfin, disons, on est toujours des pans de cette œuvre qui échappent. Mais tout de même, ce qui était émouvant à cette expérience, comme cela, de cette course intellectuelle de lire ces textes, c'est la question invinciblement derrière cette lecture, c'est comment le même homme peut-il occuper des positions, des sites, des sensibilités, des identités aussi diverses, pour ne pas dire contradictoires.
Le roman n'est pas seulement la réalité décrite, il est un fait, un événement. Et la chose qui m'étonne toujours, c'est que les gens ne le considèrent pas comme tel, et le prennent comme un jeu. Or, il faut bien dire que tous les romans, il y a des romans de toutes les sortes, c'est une affaire entendue. D'ailleurs, même le mot roman est un mot dont le contenu a été constamment modifié. Les mots qui n'ont un sens à un moment donné ne gardent pas toute la vie, à travers les siècles, le même sens. Je donne comme exemple le mot « bistouri », qui a d'abord désigné des sortes de couteaux gigantesques au bout d'un manche que portaient les cavaliers pour la bataille, et puis qui, à l'époque d'Ambroise Paré, est devenu le petit instrument de chirurgie que vous savez. Et aujourd'hui, on fait une chose tout à fait étrange, où a disparu même la lame, puisqu'on parle de bistouri au laser, dans laquelle il n'y a pas d'acier, mais des rayons. Eh bien, ce phénomène de l'oubli du sens des mots, la venue dans les mots d'un nouveau sens, eh bien, ceci est une des caractéristiques du roman. Le roman est le moment même du passage d'un sens à un autre. Et à cet égard, il est une grande expérience du langage, un fait, et un fait sérieux. Je prends Werther parce que c'est un exemple très simple. Werther est un livre où la transposition de choses qui se sont réellement passées dans la vie de Goethe a eu sur la jeunesse de son temps une influence très grande et même terrible, puisqu'il y a eu épidémie de suicide à cause de Werther.
C'était donc bien un événement.
C'était donc bien un événement. Le roman me paraît un moyen d'investigation et de connaissance dont nous sommes loin d'avoir fait le tour, dont nous sommes loin d'avoir épuisé l'efficacité.
Les possibilités, oui.
Et en plus, il change le roman. Il a toujours changé. Oui. D'ailleurs, s'il ne se modifiait pas, on n'aurait aucune raison de le lire. On n'aurait qu'à lire ce qui a été écrit il y a quelques centaines d'années, ça aurait suffi. Les choses se modifient, mais elles sont la suite, même dans le langage, dans le style.
Aurélien, je crois, pour tous les lecteurs d'Aragon, est un must, enfin, est un titre qui viendrait en tête de beaucoup de préférences.
Daniel Bougnou.
Et c'est vrai qu'Aurélien, je crois, est irrésistible. Même si, paradoxalement, ce roman fut très mal accueilli à sa parution en 1945, puisque les communistes n'y reconnaissaient pas, bien sûr, leur combat. Aurélien, c'est la longue flânerie amoureuse d'un bourgeois désœuvré, d'un bourgeois qui ressemble parfois à Drieux, parfois à Aragon. Et donc le geste d'Aragon écrivant Aurélien en 41, 42, 43, ce geste est très surprenant. Là aussi, il écrit où on ne l'attend pas. Il fait quelque chose à contre-temps.
Un vrai personnage, Aurélien, puisque... on a même fait des films sur Aurélien.
Michel Favard a fait une belle adaptation pour la télévision d'Aurélien en 78. Je ne sais pas si on fera d'autres films d'Aurélien. Il y a effectivement matière à rêverie filmique ou matière à image. Mais toute la prose d'Aragon appelle l'image, n'est-ce pas? C'est très visuel.
C'est très
Aragon,
visuel.
Très visuel.
C'est du cinéma, Aragon.
Alors là, c'est le fleuve lent de la méditation amoureuse. Bon, Aurélien est tout entier pris dans la Seine, enfin, il habite à la proue de l'île Saint-Louis, là où les deux jambes du fleuve se rejoignent. Et bon, c'est une rêverie amoureuse et funèbre, d'un amour qui ne peut pas arriver. Et la fin d'Aurélien, l'épilogue est déchirant. L'épilogue a été écrit après, d'ailleurs, et qui, dans la fiction, se passe en 1940, près de Ribérac ou de Ruffec, enfin, dans cette zone où l'armée française arrive, cul par-dessus tête, culbutée par la défaite et par la poussée allemande. Et donc, les soldats rendus à la vie civile se dispersent dans la ville surchauffée par l'été. Et Aurélien, le soldat démobilisé Aurélien, retrouve Bérénice par hasard. Et cette fin est absolument déchirante. Ce qu'ils se disent au jardin dans la nuit qui les dérobe l'un à l'autre est tout à fait terrible. En gros, enfin, si je me rappelle de mémoire, « Vous aurez été tout ce qui chante dans ma vie », dit Aurélien à Bérénice. Et le texte commente « Ils avaient été la romance l'un de l'autre ». Et ce chant perdu qu'aura été Bérénice pour Aurélien, parce qu'il n'était pas à la hauteur des exigences de Bérénice, mais que Bérénice elle-même a fait un choix de vivre de façon médiocre dans une petite ville de province avec un pharmacien. Bon, cette vie qui ne s'est pas réalisée dans un couple est un sentiment, donc un constat de gâchis. On peut dire qu'il se passe très peu de choses dans Aurélien, puisqu'il faut 700 pages pour qu'Aurélien ne couche pas avec Bérénice. Alors, c'est un peu léger pour un roman eu égard aux normes actuelles. Et pourtant, quelle splendeur.
Aurélien, musique originale de Jean-Yves Bosseur.
Aurélien, on a dit que c'était vous, puis on a dit que c'était Drieu La Rochelle.
On a dit essentiellement que c'était moi, et c'est moi qui ai dit que c'était Drieu La Rochelle, car effectivement, Drieu, qui a été un ami de ma première jeunesse, dont je me suis trouvé séparé, et quand je parle de Drieu, je ne parle que de cet ami que j'ai eu, je ne parle pas de ce qu'il est devenu. Ce sont deux êtres incompatibles. Drieu est aujourd'hui effectivement très à la mode. On donne de lui des images les plus diverses et les plus folles, qui n'ont aucun rapport avec l'homme que, pas seulement moi, mais tous ses amis ont connu. Et je pense qu'Aurélien est un portrait plus fidèle de Drieu, bien que ce ne soit que partiellement un portrait de Drieu. C'était indiscutablement dans ma tête. Il va sans dire que beaucoup de traits d'Aurélien viennent de moi, parce que je n'étais pas dans Drieu, et que, pour exprimer certaines choses, quand je mettais Drieu en face de certaines situations, c'est en moi que se trouvaient les solutions et les pensées. Mais Aurélien n'était pas plus, au fond, Drieu La Rochelle que moi-même. Il y a un troisième facteur qui est une composante du personnage d'Aurélien. C'est qu'Aurélien, plus que tel ou tel homme, est avant tout une situation. Un homme dans une certaine situation. C'était avant tout l'ancien combattant d'une génération déterminée au lendemain de la paix en 1918, de l'armistice, l'homme qui est revenu et qui ne retrouve pas sa place dans la société dans laquelle il rentre. Et que ce côté ancien combattant ait existé chez Drieu comme chez moi-même, avec des formes différentes, mais s'il ressemble à quelque chose dans la personne d'Aurélien, c'est surtout à une image littéraire qui existe, peut-être pas entièrement approfondie, de l'ancien combattant de cette époque, et qui m'a beaucoup frappé alors, à laquelle j'ai constamment pensé en écrivant Aurélien. Je veux parler du personnage de Chéri, non pas le Chéri de Chéri, mais le Chéri de la fin de Chéri. Et je reconnais devoir énormément au roman de Colette pour Aurélien. On ne peut pas considérer que Aurélien c'est telle ou telle personne et en même temps oublier cette lumière particulière qui me venait de Colette et dont je lui rends volontiers, dit-on, la paternité ou la maternité.
La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes, une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci, qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qu'il avait hanté pendant la guerre dans les tranchées et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qu'il avait obsédé, qu'il obsédait encore. Je demeurai longtemps errant dans ses arrêts. En général, les vers, lui. Mais celui-ci revenait, revenait. Pourquoi ? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. Césarée, un beau nom pour une ville, ou pour une femme. Un beau nom, en tout cas, Césarée. Je demeurai longtemps. Ah, ça, je deviens gâteux, impossible de se souvenir. Comment s'appelait-il le type qui disait ça? Une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage à Rome avec un bellâtre potelé qui avait l'air d'un marchand de tissu qui fait l'article à la manière dont il portait la toge. Tite, sans rire. Tite.
Si on lit l'ensemble de mes romans, il est évident que les gens qui connaissent un peu ma biographie reconnaîtront des décors, par exemple, qui sont les décors indiscutablement de ma jeunesse ou de mon enfance. Ainsi, vous trouverez dans Les Voyageurs de l'Impérial une pension de famille qui ressemble trait pour trait, il faut le dire, à la pension que mes parents tenaient et quand j'étais enfant, de 1899 à 1904, avenue Carnot. Cette pension, dans Les Voyageurs de l'Impérial, elle est le cadre de l'enfance d'un tout autre enfant. Cet enfant, qui est le jeune sculpteur qu'on retrouvera plus tard dans Les Communistes, n'est pas moi. Mais la pension de famille dans laquelle il vit est celle dans laquelle j'ai vécu au même âge. De même, si vous prenez, par exemple, un livre comme « Les beaux quartiers », vous y trouvez un personnage, Armand Barbantane, que vous retrouverez aussi dans Les Communistes par la suite. Mais si ce personnage a des traits de moi, quand vous le retrouverez dans le dernier roman que je viens de nommer, vous le verrez faire une guerre qui n'est pas ma guerre. Chez moi, voyez-vous, je ne peux à aucun moment dire « Madame Bovary, c'est moi ». Et je ne peux pas refuser qu'on le dise.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fera attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin.
Je dois vous dire que j'étais assez étonnée par une question d'une amie à moi qui est la femme d'un peintre qui l'a beaucoup peint, elle a servi de modèle à la majorité de ses tableaux. Elle m'a dit, comment est-ce que ça ne te gêne pas d'être tout le temps présent dans des poèmes d'amour? Je lui ai répondu, toi, ça ne t'a pas gêné d'être peinte, habillée et nue par ton mari. C'est exactement la même chose, parce que ça s'arrête là. Ce que le peintre veut dire est après tout assez extérieure. Les véritables relations du peintre avec son modèle ne sont pas peintes, pas plus que dans la poésie d'Aragon ne sont peints nos rapports.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse? Un monde habité par le chant, elles a mon amour, ma jeunesse.
En 1941, naît dans la clandestinité un petit bulletin créé par quelques résistants, Jean Paulhan, Louis Aragon, Jacques Decour, Georges Politzer et quelques autres. Ça s'appelait « Les lettres françaises ». Charles Dobzinski, vous avez été l'un des principaux collaborateurs de ce qui deviendra, sous la direction d'Aragon, un grand hebdomadaire, « Les lettres françaises ».
Aragon en prend la direction à partir de février 1953, c'est-à-dire très peu de temps avant la disparition de son quotidien, du quotidien qu'il dirigeait ce soir, quotidien auquel il m'avait appelé à travailler en 1950. Quelques années se sont écoulées et les lettres françaises ont en quelque sorte absorbé deux autres publications, Tous les arts et l'écran. C'est-à-dire qu'elles ont étendu leur intervention dans le domaine du cinéma, beaucoup plus important, et dans le domaine artistique. C'était donc plus uniquement, comme cela avait été pendant quelques années, un journal axé sur la littérature, mais aussi sur l'ensemble du domaine intellectuel et artistique.
Mais ça commence de façon bizarre, parce que Aragon prend donc la direction des lettres françaises 1953, et c'est l'année de l'affaire du portrait de Staline. Première page des lettres françaises.
Absolument, c'est là...
Le portrait de Staline.
Le portrait de Staline. Vous savez, il entre aux lettres françaises, disons, je crois que c'était un mois à peu près avant la mort de Staline. Bon, il avait commencé donc à exercer son activité de directeur de journal, à transformer le journal lorsque, bon, la mort de Staline est survenue et qu'il y a eu cette affaire du portrait qui a été un véritable ouragan dans lequel Aragon a été bafoué, humilié pour un écrivain de son envergure qui était sorti de la guerre, auréolé du prestige de grand poète de la résistance qu'il était, et aussi le grand romancier qui avait publié un admirable roman tel que Aurélien, salué en termes dithyrambiques par Paul Claudel. Pour un homme comme lui, ça a été un moment extrêmement pénible où certains de ses camarades, d'ailleurs, lui ont craché à la figure.
Oui.
À un moment donné, on a dit qu'il était à ce point malheureux que l'idée du suicide l'a hanté. Ben, je crois qu'Elsa a joué à ses côtés un rôle de solidarité et d'amour absolument extraordinaire pour l'empêcher de dériver. Alors, il a tenu le choc, malgré donc l'humiliation subie. Humiliation, d'ailleurs, qui a coûté à ceux qui lui avaient fait subir, les membres de l'époque du bureau politique du Parti communiste, qui ont été ensuite évincés lorsque Maurice Thorez, le secrétaire général du parti,
est rentré du RSS,
où il était soigné pour l'hémiplégie, comme vous savez. Alors, Maurice Thorez était un grand ami et un protecteur d'Aragon. Il a tenu à lui faire savoir, depuis l'URSS, par une lettre ou par un télégramme, je ne m'en souviens plus exactement, qu'il était avec lui et qu'il n'approuvait absolument pas le désaveu que le bureau politique du PC avait infligé à Aragon pour le portrait de Staline. C'était aussi un grand pavé qui était jeté dans les rapports entre les lettres françaises et l'ensemble du monde artistique, puisque Aragon était visé en premier chef, mais évidemment, par ricochet, c'était aussi Picasso qui était visé.
Ça, c'est la lâcheté devant le parti.
Dominique de Santi.
Toujours, au moment de la ridicule histoire du portrait de Staline par Picasso.
Mais oui, en 53.
En 53, Staline meurt. Aragon demande à Picasso
pour
de
les
lui
lettres
envoyer
françaises.
Un dessin. Et Picasso fait un dessin. Deux jeunes hommes étincelants avec un œil
très,
comme
très,
ça, très ouvert, mais un portrait très lisible, très figuratif. Pas du tout un dessin abstrait, donc. Et Aragon, qui a à peine le temps de voir le portrait, parce que naturellement Picasso était en retard, l'envoie à l'imprimerie tout de suite. Et immédiatement, les sectaires du parti déclenchent, comme toujours, une campagne maramba. C'est-à-dire, ils font donner ce que nous appelions déjà radio-chauffeurs. les chauffeurs des dirigeants, qui naturellement étaient très influencés par les dits dirigeants, les employés de mairie des mairies communistes, enfin, c'était sa radio-chauffeur. Alors, ils écrivaient des lettres en disant « le prolétariat est indigné, on s'est moqué de nous, on attendait Staline, père des peuples, on nous montre un jeune homme dont on se demande qui c'est. » Et on a exigé une autocritique écrite d'Aragon, et il l'a donnée.
Et il l'a donnée.
Et il l'a donnée.
Et alors, c'est ça, pour moi, c'était auto-accusé, effectivement. Oui.
Alors ça, pour moi, c'était incompréhensible, d'autant que je trouvais ce dessin très beau et que je comprenais rien du tout au raz-de-marée que ça a déclenché, vous voyez. Et pourtant, Dieu sait que j'étais militante. Enfin, en 53, je me posais déjà beaucoup de questions, mais enfin, j'étais militante quand même. Et là, je crois que personne d'entre nous n'a compris. Et l'attitude d'Aragon, à la fois, il faisait dire par Elsa aux dirigeants qu'il allait se suicider, et en même temps, il fait son autocritique pour ne pas être mis au banc de sa famille. Il y avait ça. Courageux devant l'adversaire et filant doux devant ceux dont il admettait l'autorité, même quand elle était injustement exercée.
Quand ce dessin m'est parvenu, je n'ai pas eu la réaction qui devait être celle du public. Voilà le fait. J'ai vu un Staline jeune, avec le caractère national géorgien très marqué, dessiné par Picasso. Je n'ai pas douté des sentiments de Picasso. J'ai été touché par le fait que Picasso, précisément parce que la mort de Staline devait l'avoir véritablement affecté, avait voulu faire un portrait de Staline, ce dont Staline vivant, les aboyeurs de la presse bourgeoise le mettaient au défi depuis plusieurs années. Il n'y avait dans cette image aucune des distorsions dont souvent Picasso use vis-à-vis de la figure humaine. Qui plus est, chaque trait de ce dessin est caractéristique de Picasso, comme une signature, la façon de faire les cheveux, le trait en bas, comme sous le portrait de Paul Éluard, etc. Aussi ai-je vu 40 signatures de Picasso dans ce court moment où le dessin passait sous mes yeux. Et cela m'a paru le principal, la preuve que Picasso avait essayé de mettre sa technique, l'honnêteté de son expérience, au service d'une image de Staline. J'ai vu cela, et rien que cela, et j'ai dit « faites cliché ».
L'homme a été souvent très dur à supporter, parce que, comme il dirigeait à la fois les lettres françaises ce soir jusqu'à ce que le journal capote et les éditions du parti, j'avais quand même très souvent affaire à lui, et c'était pas toujours très agréable. Mais alors, maintenant, je relis l'œuvre, et je dois dire qu'on trouve des choses étonnantes, comme par exemple le roman inachevé qu'il a publié en 56.
Alors justement, parlons de cette année 56.
Ah bien
alors,
oui,
parce que vous avez quitté le parti en 56.
Ah, voilà, absolument. Exactement. Et je suis partie.
Et où lui est resté ?
Où lui est resté ? Et je crois que tous les intellectuels, je veux dire, qui sont partis à ce moment-là, que ce soit Claude Roy, que ce soit moi, que ce soit d'autres, parce qu'on a quand même été des dizaines, je dirais des douzaines à partir.
Oui, c'était l'invasion de la Hongrie.
Mais c'est de ça qu'il s'agit.
Oui.
En février, on nous dit il y a eu des crimes commis sous le stalinisme et par Staline, mais nous dit-on au parti, d'abord
le moment
on
de la
a dit ça n'existait pas, mais ensuite on a dit mais de toute manière nous sommes le seul parti qui puisse avouer une chose comme ça pour que ça ne revienne jamais. Et puis le même, celui qui avait dénoncé les crimes, celui-là envoie les tanks au peuple insurgé pour tirer sur le peuple insurgé de Budapest en disant que c'est des agents de la CIA. Alors comment voulez-vous rester dans ces conditions-là ? On avait passé un été à essayer de lutter à l'intérieur, on a vu qu'on ne pouvait pas, et on est parti. Et Aragon a toujours refusé de prendre parti. Il s'est cru investi de la défense de l'Union soviétique avec des arguments absurdes, sous prétexte qu'Elsa avait eu des personnes dans sa famille qui avaient été arrêtées et que son beau-frère avait été fusillé.
Oui.
Sous ce prétexte, Aragon, qui prétendait à l'époque avoir à peine connu le général Primakov, en réalité c'était son beau-frère, et ils habitaient chez lui, c'est-à-dire chez Lili Bric, la sœur d'Elsa, donc chez lui aussi, parce qu'il y habitait également. Alors là, il n'en dit pas un mot, mais il a publié le roman inachevé, Poème.
Les ombres se mêlaient et battaient la semelle. Un convoi se formait en gare à Verberie. Les plateformes se chargeaient d'artillerie. On hissait les chevaux, les sacs et les gamelles. Il y avait un lieutenant roux et frisé qui criait sans arrêt dans la nuit des ordures. On s'énerve toujours quand la manœuvre dure et qu'au-dessus de vous éclatent les fusées. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bonhommes, là-bas, attendent la relève. Le train va s'en aller, noir, en direction du sud, en traversant les campagnes désertes, avec ses wagons de dormeurs, la bouche ouverte et les songes épais des respirations. Il tournera pour éviter la capitale. Au matin pâle, on le mettra sur une voie de garage. Un convoi qui donne de la voix passe avec ses toits peints et ses croix d'hôpital. Et nous, vers l'est, à nouveau, qui roulons. Voyez, la cargaison de chair que notre marche entraîne vers le fade parfum qu'exhalent les gangrènes au long pourrissement des entonnoirs noyés. Tu n'en reviendras pas. Toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps, sans visage, sans yeux. Roule au loin, roule, train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Vous étirez vos bras, vous retrouvez le jour. Arrêt brusque et quelqu'un crie « Au jus là-dedans !» Vous bâillez, vous avez une bouche et des dents. Et le caporal chante « Au pont de Minocourt !» Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Aragon a couvert le siècle,
ses
tragédies, ses espoirs, ses illusions, ses drames. Il disait que la littérature donne à un pays, au bout du compte, son visage. Cette façon de s'arrimer au peuple, à une histoire, à une culture, voilà ce qui, à mon avis, fait la grandeur d'un écrivain. Mais l'amour d'Aragon pour la France est un amour qui traverse à peu près tous ses textes, mais c'est l'amour d'une France qui accueille toutes les cultures du monde. Il faut avoir en même temps tenir... Là encore, en même temps, cet amour de la France, de la littérature, de sa culture, avec cet amour qu'Aragon avait pour toutes les cultures du monde. Songez à la passion qu'il avait pour la littérature anglaise, ou la littérature américaine, ou la littérature des peuples à l'époque de l'Union soviétique, ou de l'Italie, de l'Allemagne. Comment peut-on parler
arabes.
De culture ? Absolument.
Lorsque, effectivement, il y a 4 ans, j'ai mis le pluriel au mot « littérature soviétique » comme titre à mon livre, Bien sûr, le problème principal n'était pas que cette littérature emploie une quarantaine de langues. Mais pourtant, mon désir était alors de souligner la pluralité des littératures dans cet immense pays. Pluralité qui s'accompagne d'une diversité extraordinaire et pourtant aisément concevable. La littérature russe est une littérature jeune par rapport à la littérature française. Mais son 19e siècle éclatant, le siècle de Pouchkine et de Lermontov, de Gogol et de Tolstoï, de Dostoïevski, de Tourguenev, de Liskov, qui se termine par Tchekhov et l'apparition de Gorki, ce 19e russe suffit à lui donner droit d'aînesse sur les littératures d'un grand nombre de peuples qui n'ont acquis l'alphabet que depuis moins de 40 années. Mais en même temps, l'URSS comprend des peuples comme les Géorgiens, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Azerbaïdjanais, les Arméniens, dont la littérature est plus que millénaire et qui marie à la culture nouvelle développée en commun avec les Russes et les Ukrainiens une très ancienne tradition littéraire nationale. C'est pour combattre l'ignorance que nous en avons que j'ai fondé chez Gallimard une collection d'ouvrages contemporains portant le titre même de mon livre paru chez De Noël, Littérature soviétique au pluriel.
J'aimerais, Aragon, ici, qu'en dehors de toute idée politique, vous tâchiez d'expliquer pourquoi, en somme, ces livres soviétiques ont été défavorisés parce qu'ils étaient soviétiques et qu'il y a une méprise sur le mot. On croit que ce qui est soviétique est forcément de propagande et la littérature en pâtit.
Je n'ignore pas qu'il existe chez nous tout d'abord un préjugé contre les traductions, bien que, le cas échéant, on n'hésite pas, même d'une traduction du russe, à faire un best-seller. Mais enfin, il ne manque pas de gens qui, a priori, n'ouvrent point un livre soviétique parce qu'ils y voient a priori un livre de propagande. Même s'ils veulent bien admettre qu'il ne s'agit pas là de propagande directe, du moment que l'auteur ne se prononce pas contre le régime soviétique, c'est déjà trop pour eux. Le mot « kolkhoz » à lui seul les fait bondir, comme s'ils avaient touché une couleuvre ou comme si ce mot à lui seul avait le pouvoir de les associer à la collectivisation des campagnes. Ils ne peuvent admettre que depuis 42 ans, 200 millions d'hommes et de femmes vivant dans un régime différent du leur, dans des institutions qui ont pris le caractère normal de la vie quotidienne, le roman soviétique anime nécessairement ces personnages dans le cadre réel de la vie soviétique. Et tout se passe comme si nous devions vivre avec des œillères, refuser de connaître les sentiments humains qui se développent sur un sixième du globe. J'avoue que cela m'étonne, comme cela étonnerait par exemple tout le monde si, sous le prétexte que je ne partage pas la foi chrétienne, je prétendais ignorer, pour m'en tenir aux poètes, Germain Nouveau, Charles Péguy, Paul Claudel. Pour lire un roman ou un poème, je n'ai pas besoin d'être d'accord avec l'homme qui est pour moi un guide dans un pays ou des idées que j'ignore. Depuis des années, je m'emploie à vaincre ce genre de préjugés. Et parmi ceux que l'antisoviétisme maintient dans l'ignorance d'œuvres importantes, humainement parlant, et aussi parmi d'autres qui pour l'essentiel pensent comme moi, mais qui en littérature ont des préjugés analogues, inversement dirigés, et exigent des écrivains que ceux-ci partagent leurs idées. Par exemple, il ne manque pas de gens, de droite et de gauche d'ailleurs, pour s'étonner que j'aime Claudel ou Barrès. Ce genre d'idées toutes faites sur ce que je dois obligatoirement penser en littérature est aussi difficile à vaincre que les préjugés concernant les littératures soviétiques. J'ai entrepris de combattre conjointement les unes et les autres.
Quels sont les livres que vous publiez de préférence dans cette collection ?
J'ai publié dans la collection Littérature soviétique, après une anthologie de contes et nouvelles accompagnée d'une longue introduction de moi, qui donnait un tableau d'ensemble de la littérature soviétique, autant que cela est possible au moyen de 15 ou 16 histoires, un livre tadjik, Bukhara, de Sadreddin Aini, un livre ukrainien, Les Cavaliers, de Yuri Yanovsky, un livre russe, Le Disgracié, de Yuri Tinianov. Et le cinquième volume de la collection, un livre kazakh, La jeunesse d'Abaï de Mukhtar Awezov, vient tout juste de paraître. Le grand silence des critiques devant ces œuvres choisies par moi va-t-il céder maintenant que nombre d'entre eux semblent m'avoir reconnu quelques goûts en littérature ? Je le souhaite.
On
parle beaucoup des ruptures parfois violentes dans la vie d'Aragon, et moi j'ai l'impression que ce n'est pas si simple. En fait, on voit bien, Jean Rista, dans l'album que vous avez écrit pour la Pléiade, que ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Alors il y a des ruptures, d'accord, mais mis à part celle avec Breton, les choses semblent se recomposer autrement. Par exemple, Aragon renouera avec Tristan Tzara, ou Gide, ou encore bien sûr Éluard. Et donc, il y a aussi dans la vie d'Aragon une sorte de continuité.
Je crois que vous avez raison. Il faut insister sur la fidélité d'Aragon. Je pense que on l'oublie trop, ou on ne veut pas en parler. Pensez à Cocteau.
Oui, par exemple. Alors évidemment, il y a à chaque fois des démêlés, des
Aragon
débats.
Aragon est inattendu.
Des ruptures
inattendues.
Oui, ponctuelles.
Il y a les ruptures.
Mais au fond, ça se remet aussi en place autrement, ailleurs, plus tard. Choses se recomposent.
Tout
quoi.
À fait. Le témoignage que je peux apporter va dans ce sens.
Il a peut-être été un peu trop fidèle au Parti communiste français, tout de même.
C'est une fidélité douloureuse, par moments tragique. C'est une fidélité qui fait le pari de l'avenir. Lorsqu'on parle d'Aragon communiste, membre du Parti communiste, dirigeant du Parti communiste, puisqu'il a été membre du comité central du parti en 1953, je crois qu'il faut toujours avoir cette idée que Aragon, qui était contre la diplomatie secrète pour tout ce qui concerne les affaires du monde, pour ce qui était du Parti communiste et des partis communistes dans le monde, pensait qu'il fallait travailler de l'intérieur pour faire évoluer les choses, comme il disait. Il n'a jamais cessé d'œuvrer en ce sens, j'en suis le témoin. Je le répète, dans la fidélité douloureuse, mais dans la fidélité malgré tout. Et mon Dieu, l'histoire lui donne un peu raison, non que je veuille ici apporter de l'eau au moulin de mes camarades, mais il y a tout de même beaucoup de choses qui ont bougé en 20 ou 30 ans. Si on ne tient pas cette idée, alors on ne comprend pas les silences d'Aragon.
Eh oui.
On ne comprend pas comment, à partir d'une certaine époque tardive, j'insiste, on ne comprend pas pourquoi à partir de cette époque, alors qu'il savait les crimes du stalinisme, pourquoi il s'est tué. Il s'est tué, me semble-t-il, pour plusieurs raisons. La première est celle que je viens de vous indiquer. Travailler de l'intérieur. Mais ce travailler de l'intérieur ne peut pas se comprendre sans prendre en compte la situation historique internationale de l'époque. Parce que c'est bien gentil de dire aujourd'hui « Ah oui, on aurait dû parler, ah oui, on a été stalinien. » Oui, oui, il y en a, je cite Aragon dans l'album, ou en tout cas je reprends à mon compte cette phrase. Oui, oui, il y en a qui sont nés avec la vérité dans leur culotte. Possible. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y a la guerre froide. Il y a une opposition entre le capitalisme déjà triomphant et un socialisme qui se cherche ou s'affirme. Enfin, hélas. Si on n'a pas cette situation internationale en tête, on ne comprend pas. Bon. Ensuite, il faut aussi songer à Lili Bric, c'est-à-dire à la sœur d'Elsa, à la compagne de Mayakovsky, et à la nécessité pour les Aragon de protéger Lili. Et puis, il y a aussi autre chose qui me semble peut-être plus important que tout. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Lili Bric à Paris, quelques années avant sa mort. Et Lily m'a raconté, à la question que je lui posais au sujet du maréchal Primakov, qui a été son époux, qui était compagnon de Lénine, qui était héros de l'Union soviétique, et que Staline a fait exécuter. Je lui ai demandé comment elle avait vécu ça, comment elle l'avait compris. Et elle m'a dit, lorsque nous écoutions Staline parler à la radio, nous pleurions. Nous croyions tous, à ce moment-là, en la grandeur de Staline, à son dévouement. Nous pensions que c'était l'entourage qui manipulait, exécutait. On ne pouvait pas imaginer un instant que Staline était à l'origine de ces crimes.